Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Ce matin, nous vous invitons à lire le texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, versets 18 à 30. Évangile selon Luc. Chapitre 18, versets 18 à 30. Nous lisons. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces choses, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Et Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. » On peut applaudir la parole de Dieu. Dimanche passé, nous avons vu un riche. Nous pouvons l'appeler le riche de Lazare. Il était méchant, ce riche-là. Il n'a pas du tout daigné voir la misère de celui qui était couché à sa porte, Lazare. Et ce pauvre misérable malheureux de Lazare crevait de faim à la porte de ce riche. Et lui, que des fêtes. Vous savez que parfois, dans certaines fêtes de mariage, on veut démontrer sa richesse en organisant quelque chose de somptueux, inouï, c'est bon. Et puis, la mort est arrivée, et le riche, il est allé en enfer. Et le pauvre, eh bien, il a été accueilli au ciel. Et nous avons vu que ce n'est pas à cause de leur état matériel et financier que l'un est allé en enfer et l'autre au ciel. Le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Le pauvre n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. C'est tout simplement que à chacun de la disposition, l'état de son cœur lui a permis soit d'aller au ciel ou en enfer. L'un a accepté la venue du royaume de Dieu, l'autre a refusé. Et ainsi, ils sont partis, soit au ciel, soit en enfer. L'histoire que nous venons de lire est intéressante. Cet homme ici, Luc, nous dit qu'il était très riche. C'est ce que nous dit le verset 23. Car il était très riche. Mais dans sa richesse, il n'a pas fait comme l'autre de Lazare. Hein. Lui, il a cherché le royaume de Dieu. Et il est venu justement poser la question à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oh, il est bon celui-là. Il s'intéresse à l'Église, il s'intéresse à la Bible, il s'intéresse à tout ce qui se dit de Dieu. Non, c'est pas un athée, c'est pas quelqu'un qui a un cœur loin des choses de Dieu. Lui, non, il est proche de Dieu. Et, voyez-vous, il a fait une démarche. C'est lui qui est venu chercher Jésus pour lui poser cette question. Mais la suite de l'histoire nous dit qu'il n'est pas différent du riche de Lazare. Il a le même cœur attaché à ses biens et à son argent. Nous allons le voir tout à l'heure. Vous l'avez déjà imaginé à la lecture de ce texte. Que dois-je faire, bon maître, pour hériter la vie éternelle? En d'autres termes, comment dois-je faire quand je meurs que j'aille au ciel? Une bonne question. Et vous savez, il a choisi la bonne personne pour poser la question. Il n'a pas posé la question à un évangéliste farfelu, ni à un pasteur dribbleur. Il a posé cette question à Jésus lui-même. N'est-ce pas? C'est un homme correct. Et Jésus lui a donné une réponse. Jésus, dis-moi, moi je veux aller au ciel. Je veux pas être comme le riche de Lazare. Alors, Jésus lui donne une réponse. Pour avoir la vie éternelle, il faut trois choses. La première chose, c'est que il faut reconnaître Jésus comme Dieu. Alors, ici, notre riche l'a fait, hein. Il l'a appelé bon maître. Regardez au verset 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est une reconnaissance implicite de la divinité de Jésus-Christ. Donc la première chose, il faut reconnaître que Jésus est Dieu. Le riche reconnaît que Jésus est Dieu. Est-ce que cela suffit de reconnaître que Jésus est Dieu? Non, parce que la Bible nous dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent devant Dieu. Vous vous rappelez, lorsque Jésus exerçait son ministère, toutes les fois qu'il était en présence d'un démon, le démon reconnaissait. « Je sais qui tu es !» disait un démon. « Le Saint de Dieu, tu es venu pour nous perdre !» Notre démon le disait, « Ne nous tourmente pas !» Jésus, fils de David, c'est-à-dire fils de Dieu, loin, le Messie, les démons reconnaissent que Jésus est Dieu. Vous vous rappelez dans les Actes des Apôtres, les sept fils de Séva, ils sont allés chasser les démons leur ont donné une réponse simple. Ils leur ont dit, Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons aussi. Et vous, qui êtes-vous? Identifiez-vous. Parce que vous n'êtes ni de Paul ni de Jésus. Jésus, nous le connaissons. Donc, voyez-vous, si quelqu'un dit qu'il reconnaît Dieu, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais vous savez, moi je sais que Dieu existe. Hein? Ah ben, c'est bien, bravo! T'es pas plus avancé qu'un démon? Non seulement il faut reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, mais il faut le recevoir dans sa vie. C'est-à-dire quoi? Recevoir Jésus dans sa vie. Jésus, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut recevoir la parole de Dieu dans sa vie. Ah, ça devient un petit peu compliqué. Beaucoup de gens sont réfractaires à la parole de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire réfractaire? Je vous explique cela. Lorsque on prépare avec une casserole. La chose redoutable lorsqu'on veut soit tourner, comment on dit ça? Non, tourner avec sa cuillère, remuer, Voilà, vous connaissez des mots français. Lorsqu'on veut remuer avec sa cuillère, et si par malheur on saisit la manche, alors nous savons que le fer est un des meilleurs conducteurs de la chaleur. C'est-à-dire que la chaleur qui est dans le bas est jusque dans les manches. On se brûle et ça fait mal. Ce qui fait que les ingénieurs métallurgistes qui fabriquent certaines casseroles rendent les manches insensibles à cette chaleur-là. On dit que cette partie de la casserole est réfractaire à la chaleur. Ça, c'est un peu de cours de métallurgie. Hein. C'est-à-dire que même si la casserole est chaude, la partie réfractaire n'est pas chaude, résiste et ne laisse pas la chaleur vous brûler. Être réfractaire à la parole de Dieu, c'est recevoir la parole et ne pas du tout la laisser agir dans son cœur. C'est-à-dire qu'il y a comme une division. Il y a une partie qui accepte la parole, une autre partie du cœur n'accepte pas du tout. En général, certains l'acceptent dans leur intellect, mais dans leur cœur, ça n'arrive pas du tout. L'intellect reçoit la parole, mais le cœur est réfractaire à la parole. Je reprends. Pour avoir la vie éternelle, premièrement, il faut donc reconnaître Jésus comme Dieu. Il faut donc le recevoir dans sa vie, c'est-à-dire recevoir la parole dans sa vie. La parole entre par les oreilles ou les yeux, selon que vous lisez ou vous entendez, et passe par l'intellect et continue son chemin jusque dans le cœur, où elle est stockée, magasinée, bien conservée, et de là elle diffuse pour donner la santé au corps. Pour donner ceci, ceci, etc., etc., recevoir. C'est-à-dire, en ce moment-là, notre vie est remplie de la parole. Si nous avons la parole, alors nous avons la vie éternelle. Le reconnaître comme Dieu, le recevoir dans sa vie, mais le recevoir comme sauveur. Sauveur. C'est-à-dire que ma vie trouve son sens et son salut, non pas parce que je suis marié et que j'ai des enfants, non, en Jésus. C'est Jésus mon sauveur, ce n'est pas les mariages ni les enfants. Ma vie trouve son sens, non pas parce que j'ai un grand diplôme. Non, le diplôme n'est pas mon sauveur, c'est Jésus. Ma vie trouve un sens, non pas parce que j'ai un bon travail qui me donne beaucoup d'argent, mais en Jésus. Donc, le travail ne me sauve pas, l'argent ne me sauve pas, tout ce qu'on peut imaginer ne peut pas me sauver, seul Jésus me sauve. C'est pourquoi certains proclament Jésus est le seul sauveur. Et pourtant, la Bible nous dit que si nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses nous sont données par-dessus. C'est-à-dire les mariages, les enfants, la santé, le travail, le diplôme, l'argent, etc., la santé, etc., etc. Le fait que Jésus est mon sauveur ne signifie pas que je deviens minable et dépourvu de tout. Au contraire, par lui, je reçois toutes ces choses. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Donc, je récapitule encore. Ce sont des leçons pour les nouveaux convertis que le pasteur Willy donne, n'est-ce pas, régulièrement. Hein. Et je pense que nous avons besoin de nous rappeler de ces choses pour les nouveaux convertis. Donc, Jésus, je le reconnais comme Dieu. Hein. Je le reçoit dans ma vie. Donc, sa parole trouve sa place dans ma vie. Et trois, il est mon sauveur.
C'est Jésus qui me sauve. Pas seulement pour passer de la mort à la vie, même dans la vie de tous les jours. Et quatrièmement, il est mon Seigneur. C'est lui mon patron. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je me laisse diriger par ce que dit la parole. Ça veut dire que s'il y a une lutte, un conflit entre ma coutume et la parole de Dieu, mon Seigneur, ce n'est pas ma coutume, mon Seigneur, c'est la parole de Dieu. S'il y a un conflit entre ce que je fais comme travail et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est mon Seigneur. S'il y a un conflit entre mon mariage et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est mon Seigneur. Alors, je récapitule encore. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut donc, premièrement, reconnaître que Jésus est Dieu. Deuxièmement, il faut le recevoir dans sa vie, c'est-à-dire recevoir sa parole. Troisièmement, il doit être mon sauveur. Et quatrièmement, il doit être mon Seigneur. C'est lui qui me dit, fais ceci et je le fais. Et vous allez voir que le riche, oh, il a raté l'examen. Parce que le Seigneur qui était en face de lui, lui a dit de faire quelque chose et il a refusé. Il est devenu tout triste. Nous allons le voir. Alléluia. Donc, la deuxième chose qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, parce qu'il y a trois choses, il faut, nous dit le verset 20, non seulement connaître, mais garder les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Les commandements. Alors, je dis, mais Jésus a été vraiment gentil avec lui. Hein. Parce qu'à la Nouvelle Jérusalem, nous en connaissons 10. N'est-ce pas? Et nous les répétons. Mais Jésus lui simplifie même la tâche. Il dit, 1, pas d'adultère. 2, pas tué. 3, pas dérobé. 4, pas de faux témoignage. 5, honore ton père et ta mère. Et puis voilà. Ah. Moi, je pense qu'il était de la Nouvelle Jérusalem. Voilà comment il répond. Verset 21. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voyez? Dans notre culte de 8h30, je répète ça. Dans notre culte de 11h, je répète les 10 commandements. Depuis que je suis à l'école de dimanche, il y a parmi nous ici des gens que nous avons accueillis, reçu et présenté ici. Et puis, ils ont fait l'école de dimanche. Et puis, ils sont passés au département des adolescents. Et puis, ils sont devenus des jeunes dans la jeunesse. Et certains sont brillants dans leur ministère. Ah, bravo. Dès ma jeunesse, je fais ça. Au verset 22, Jésus ayant entendu cela, en fait, c'est ça son appréciation. Jésus ayant entendu cela, verset 22, il lui dit, « Eh, monsieur, il te manque encore une chose. » Tiens, c'est pas possible. Qu'est-ce qui me manque encore? Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Alors, voyez, Jésus dit, vends ce que tu as. Oh, c'est pas un problème, hein. Je les vends, et du pognon, c'est le pognon, l'argent que je reçois de cette vente, c'est pour moi. J'ajoute, n'est-ce pas, ce que j'ai. Non, non, Jésus dit, ah, non, non, attention. Tu vends tout. L'argent, tu totalises bien, puis tu donnes. Oh, tu donnes aux pauvres. Tu donnes à Lazare pour qu'il achète des médicaments pour se soigner. Tu donnes à Lazare pour qu'il ait à manger. Tu donnes à Lazare pour qu'il achète un lit. Donne ça aux pauvres. Et avec ça, C'est ça la vie éternelle. Tu as construit un trésor dans les cieux. Maintenant que tu as ton trésor dans les cieux, tu viens et tu vas me suivre. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a appris là-dessus. C'est que tu ne peux jamais aller dans une banque retirer l'argent que tu n'as pas déposé. D'accord? Faites les chèques, faites autant que vous voulez. Même un montant de 1 euro, on ne te donnera pas. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas déposé 1 euro, tu ne sortiras pas un seul euro d'un compte bancaire. Dans n'importe quel pays du monde. Alors, nous nous prions que Dieu nous donne des richesses. Mais nous voulons aller recevoir là où nous n'avons pas semé. Nous voulons aller signer des chèques là où nous n'avons pas déposé nos trésors. Frères et sœurs, pour vous qui cherchez la bénédiction, le message que je vous donne aujourd'hui est la clé de votre bénédiction. Vous ne pouvez recevoir que de votre trésor que vous avez déposé dans les cieux. Pourquoi? Je vais vous expliquer très bien. Il dit, maintenant, viens et suis-moi. Mais tu vas suivre Jésus pour manger quoi? Tu ne vas pas manger à la poche de Jésus. Vous savez que dans la vie ici, chacun a un ministère, n'est-ce pas?
Oh, un ministère, je parle ici dans les églises, hein?
Et chacun cherche ses partenaires. Quand nous étions au Congo, à l'époque, il y avait que le campus pour Christ, et les gens venaient nous assaillir à la Sosa-Com. J'ai besoin d'un partenaire pour mon ministère. On m'a dit, temps plein, d'accord, mais tu te débrouilles pour trouver tes partenaires. C'est à partir de tes partenaires que tu vas vivre. C'est le même principe que nous avons les missionnaires américains ici. Maintenant, là que je vous parle, Monsieur Fox, Chris Swift, tout ça, et l'autre Tanner sont aux États-Unis. Chacun parti à la chasse pour chercher ce qu'ils appellent des budgets, le budget pour chacun d'eux. Donc, Chris Swift ne vivra pas de l'argent de Bruce Fox, et Bruce Fox ne vivra pas de l'argent de Tanner. Chacun doit aller faire sa pêche, et à partir de ce qu'ils ont gagné en prêchant dans les églises, c'est à partir de là qu'ils vont vivre ici. Vous comprenez le principe? Ça va? Au fond là. Vous avez compris? Donc, quand nous suivons Jésus, nous, chacun doit vivre. Mais c'est pas Jésus qui nous donne. C'est à partir de ce que tu as déposé que dans la suite avec Jésus, tu retires cela pour vivre. Regardez, par exemple, les apôtres. Ils trouvent Matthieu à la place des impôts. Il dit, abandonne ça. Viens, suis-moi. Matthieu abandonne son travail de percepteur d'impôts. Son salaire, son bon salaire. Parce que les gens au ministère des Finances sont bien payés. Son bon salaire. Même son cercle d'amis. Quand tu n'as plus d'argent, eh bien, le cercle d'amis de ces gens-là, quand j'ai quitté mon travail, tous mes amis de la Sosa-Com, je ne les vois même plus. Donc, tu perds aussi ton cercle d'amis. Matthieu a perdu tout cela. Il dit, maintenant, viens et suis-moi. Vous savez ce que Matthieu a fait? Il a ouvert un compte. Parce qu'il a donné tout ce qu'il était au Seigneur. Il a trouvé Simon, le frère d'André. Simon, alias Pierre. Et Jacques et Jean. Jacques, le frère de Jean. Le fils de Zébédée. Chacun d'eux avait une entreprise. Je ne sais pas si ça s'appelait Zébédée et fils compagnie. Mais en tout cas, c'était des business. Ils pêchaient le poisson, c'est pas pour manger. Seulement, ils pêchaient le poisson pour vendre. C'est des businessmen. C'était des gens qui pêchaient, vendaient le poisson. Ils vivaient de ça. C'était leur gagne-pain. Et puis, il leur dit, quittez, suivez-moi. Et Zébédée a dit, oui, mais mes fils, il dit, oh non. Il n'y a pas moyen. Ils doivent lâcher et puis me suivre, etc., etc. De sorte que vous comprendrez bien le principe que chaque apôtre a dû déposer quelque chose pour de sa vie
dans le royaume des cieux pour suivre Jésus. De sorte que, dans la suite de Jésus, jusqu'à leur mort, ce qu'ils avaient déposé produisait des intérêts. Il me semble pas que Dieu a des bons intérêts. Ça va? Alors, il y a des gens, et là nous allons y revenir tout à l'heure, qui veulent se jeter comme ça. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu qui va te produire et ton salaire et tes intérêts? Vous savez, chez nous, dans mon pays, à cause de la faim, les gens sont devenus des prédicateurs. Les prédicateurs de la faim n'ont pas investi dans le royaume de Dieu. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est pourquoi l'Afrique a difficile à se développer. Hein. Si nous devons devenir pasteurs parce que nous avons besoin d'un emploi, et là nous n'avons rien compris. Même si nous avons des grosses visions comme ça, c'est des visions vides. Alors Jésus lui dit, il te manque une chose. Tu vends, tu donnes tout aux pauvres. Tu te constitues un capital dans le royaume. Et maintenant tu viens et tu me suis. C'est-à-dire, là tu es inscrit à 100% dans la vie éternelle. Donc la troisième chose. Nous avons dit qu'il y avait trois choses pour avoir la vie éternelle. La première chose, reconnaître Jésus comme Dieu, etc., etc. La deuxième chose, garder ses commandements et bien les garder. Parce que lui, il a cru qu'il avait gardé tous les commandements. Mais le prochain, comme lui-même, il n'a pas gardé ça. Vous savez, parfois, nous, les pentecôtistes, nous sommes rigolos. Oh, j'ai été délivré de la cigarette. Ben, c'est bien. Et puis, qu'est-ce que tu fais du prochain? Ben, tu fumes plus, hein? C'est bien pour ta santé. T'auras plus le cancer de, comment on appelle, des poumons. Que sais-je encore? D'accord. Oh oui, vous savez, moi, je dormais dans les parcs, je suis délivré. Ok, c'est bien, t'es plus ivrogne. Mais qu'est-ce que tu fais du prochain? Jésus dit, il te manque une chose, soucie-toi de ton prochain. Inquiète-toi de ce qui arrive à ton prochain. Comment? Eh bien, parce que tu as, tu vends tout ce que tu as. Tu ne vas pas alourdir ton capital, tu donnes ça aux pauvres. On continue notre message. Puis viens et suis-moi. Quel Seigneur, au verset 23, lorsqu'il entendit ces choses, ces paroles, il devint tout triste. Vous avez lu? Verset 23. Il devint tout triste, car il était très riche. Ah! Il y a des gens, quand tu évalues simplement ce qui est sur son corps, prenons par exemple les dames. Les hommes aussi, n'est-ce pas? Bijoux très chers, n'est-ce pas? Facilement. Moi, je connais des gens qui se disent pauvres, mais là, des bijoux de au moins une seule paire, 1500 euros, n'est-ce pas? Et puis, ce qu'il a sur son corps, comme vêtements, chaussures, avec sac à main assorti. Quand la chaussure est verte, les habits sont verts, le sac à main vert. Ouh! Et les ongles verts. Ça, c'est normal, hein. On appelle cela l'élégance. N'est-ce pas? Maintenant, quand je dis à la même personne, hein, viens pour sors ton argent pour qu'on achète le marbre pour l'église. Oh! On devient tout triste. Fallait pas toucher à l'argent. C'est mon argent. C'est mon argent. Donc, il n'y a pas que les riches qui étaient tristes de la Bible. Il y a aussi les fidèles de la Nouvelle Jérusalem. Tristes. Tout triste.
Au moment des offrandes, c'est le moment de sortir. Il y a des gens, hein, dès qu'on dit, on va commencer à donner l'offrande sans sac à main. Bon. Vous m'avez suivi? La destination, c'est l'enfer. Pourquoi vous voulez pas le dire? Quand tu sors avant l'offrande, là, tu vas où? Dites un peu plus fort. Tu es tellement triste. C'est pour ça que dans mon pays, les gens sont pauvres, sont prêts pour aller au ciel. Au moment de l'offrande, les femmes dansent même pour amener l'argent. C'est le moyen d'investir pour obéir à la parole. Alors, Jésus, il est formidable. Il était tout triste. C'est vrai. Oui, oui, oui. Oh, j'aurais souhaité qu'il soit là pour voir nos cœurs. Très triste. Quand on touche à notre argent. Et voilà. Au verset 24, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste. Donc, en fait, le Seigneur le regardait. Quand il est venu lui poser la question, il était très heureux. Parce qu'il savait qu'il va aller au ciel. En fait, c'était juste pour que Jésus confirme. Et puis Jésus, dans sa parole, il touche à son argent. Et puis tout à coup, wow, la ville change. Et Jésus dit, wow. Voyant qu'il était devenu tout triste. Je vais te donner un conseil aux pauvres. Il faut pas croire qu'en essayant d'être triste quand on parle de l'argent, tu vas devenir riche. Je connais des pauvres qui mourront pauvres. Alors, si tu veux entrer dans le royaume, réjouis-toi, parce que c'est le moyen d'investir. Je vous parlerai tout à l'heure de certains exemples. Alors, voici ce que Jésus dit. Moi, je pense que si c'était un Africain, Jésus, il allait faire comme ça. Quand il a vu cet homme-là, tout triste, il a dit qu'il est difficile. Aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. C'est la conclusion du Seigneur. C'est-à-dire que on peut lui prêcher toute la parole. Comme ce que vous avez à la Nouvelle-Jérusalem. Mais la parole, comme cet homme-là n'a pas reçu Jésus dans son cœur. Ça dit qu'il n'a pas reçu la parole. Il n'est pas converti, donc il n'ira pas au ciel. Parce que Jésus n'est pas son Seigneur. Jésus lui dit, va et vends. La parole est Seigneur. Va et vends. Il dit que non, moi je ne peux pas. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas son Seigneur. Son Seigneur, c'est son argent. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 26, ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Vous savez pourquoi? Pourquoi il lui pose cette question? Parce que un juif attend la bénédiction de Dieu. Un juif normal, qui obéit à la loi de Dieu, attend d'être riche. Donc, ces apôtres, quand ils suivaient Jésus, ils attendaient d'être riches. En fait, vous savez que ils attendaient que Jésus établisse le royaume d'Israël et qu'eux soient des ministres. Donc, ils avaient déjà fait leur calcul. Et puis, quand Jésus a dit ça, il dit, « Eh, mais vous nous découragez, donc nous aussi, on ne sera pas sauvés. » Ah, c'est comme les chrétiens de la Nouvelle-Jérusalem qui attendent tous d'être bénis. Oh, Seigneur.
Elle dit, bon, si en arrachant ta richesse là, ça devient ton cœur s'attache à cela, tu vas en enfer.
Parce que les disciples sont arrivés à la conclusion, et qui peut être sauvé? Est-ce que c'est pas pour cette raison que Dieu ne donne pas à certaines personnes des millions? Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il y a des gens qui doivent mourir pauvres. Hein? Malheureusement. Parce que si on leur donne un peu d'argent, ils vont en enfer.
Et l'enfer a déjà beaucoup de gens. Hein. Donc, il faut quand même que les quelques-uns qui s'adonnent à Dieu, Dieu puisse les épargner. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous entamons la dernière partie. Ah, avant d'entamer la dernière partie, je voudrais vous lire quand même quelques textes au sujet du danger de la richesse. La richesse, elle est bonne, mais quand on l'utilise pas comme il faut, c'est très dangereux. Juste un texte dans chaque chapitre 5. Vous voyez, c'est le genre de verset que je n'aime pas lire. Je pense que je n'ai jamais prêché là-dessus. Probablement depuis ma conversion. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai rencontré des pasteurs très très pauvres. Quand ils commencent à condamner la richesse, hein, tu vas fuir. Alors ça m'a déplu. Mais là, je suis en train de vous prêcher dans son vrai contexte. Jacques 5, 1 à 6. Nous lisons ensemble, à haute voix. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teintes. Votre or et votre argent sont rouillés et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous a pas résisté. C'est dur, hein? Peut-être que quand vous lisez ce texte, vous pensez que le riche, c'est celui qui a beaucoup d'argent, des millions d'euros en compte. Je vous ai dit que la richesse, c'est quelque chose de tout à fait relatif. Ça veut dire que, avec ce que vous avez là, si vous n'aménagez pas la place du Seigneur dans le cœur, eh bien, nous regretterons. Que Dieu nous aide. Alors, nous retournons dans Luc 18, et c'est la dernière partie. Alors, Pierre dit au Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alors, dans Marc, chapitre 10, il y a le même texte parallèle, quelque chose de très clair. Marc 10, 28, et jusqu'au verset 30, nous lisons à haute voix ensemble, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternel. Donc, Pierre dit, Seigneur, maintenant, entre nous, et nous faisons quoi? Vous voyez, pour entrer, pour hériter la vie éternelle, la troisième chose, c'est renoncer. C'est-à-dire faire Jésus son Seigneur. Il ne faut pas renoncer quand Jésus ne vous a pas demandé de renoncer. C'est de faire Jésus son Seigneur. Quand Jésus dit, arrête, et il arrête. Cet homme a entendu la voix du Seigneur. Va, vends ce que tu as, donne aux pauvres, reviens et suis-moi. Il était triste, il est parti. Jésus n'était pas son Seigneur. Donc, il n'était pas sauvé. Et c'est ce que Jésus a fait exactement avec les autres. Je vous ai dit qu'il a trouvé Simon et André, son frère, qui étaient des pêcheurs. Il leur a dit, vous renoncez à ça. Ah, mais Seigneur, c'est notre revenu. Vous renoncez à ça, vous vous suivez. Ils ont renoncé. Ils ont obéi. C'est là leur conversion, obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas un endroit où, à part Nathanaël, où on voit
un André ou un Jean ou un Jacques qui dit j'accepte, ou bien on prêche, on dit qui veut recevoir Jésus comme son sauveur, Jacques lève la main, je le reçois comme son sauveur. Non, il a rencontré le Seigneur et le Seigneur lui a dit arrête ça et viens suis-moi. Il a obéi. Ça veut dire qu'il a reçu Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Sa pêche n'était pas son sauveur, sa pêche n'était pas son Seigneur. Jésus était son Seigneur. Et ils ont suivi Jésus. Et Pierre dit, et nous, ça veut dire quoi maintenant là? Et Jésus lui dit, vous avez quitté, vous recevrez 100 fois avec des persécutions. Vous voyez? Cette phrase, c'est difficile à gérer. Au verset 30, ils reçoivent toute la liste 100 fois dans ce siècle-ci avec des persécutions. Moi, je croyais que les persécutions, c'est qu'on nous prend, on nous met en prison. Oui, ça fait partie des persécutions, mais il y a d'autres persécutions aussi que personnellement, j'ai souffert et je continue à souffrir. Les gens veulent que tu quittes, mais ils oublient que Jésus a dit que vous recevrez de l'autre côté 100 fois. Vous savez que quand Dieu m'a parlé de quitter mon travail, ce que vous n'avez peut-être jamais imaginé, c'est que je renonçais à mon séjour en Belgique. Parce que mon séjour était lié à mon contrat de travail. Et chaque année, j'ai quitté quand j'avais ce qu'on appelait ici avant le permis de travail A. On a renouvelé mon permis de travail au mois de juin-juillet. Vers août-septembre, je démissionne. Donc, du coup, j'avais encore 10 mois de séjour. Du coup, mon séjour tombe. Je suis un irrégulier. Alors, je suis allé discuter avec l'Office des étrangers. Vous savez, ils m'ont donné simplement 6 mois. Je leur ai dit non, j'avais encore 10 mois. Moi, je pensais que on allait considérer quand même que j'avais un séjour. Non, on m'a donné 6 mois. En me précisant qu'après 6 mois, mon dossier doit de nouveau être étudié. Ce qui fait qu'après 6 mois, je suis allé à l'Office des étrangers, non, à la commune pour renouveler. On m'a refusé le renouvellement. Donc, pendant quelques minutes, j'étais un sans-papier. Simplement parce que j'ai renoncé à ma vie pour le Seigneur. Et heureusement, quand je suis parti immédiatement à l'Office des étrangers, ils ont renouvelé la même journée. Donc, je n'ai pas vécu une journée sans papier. Nous n'étions pas en mesure d'offrir des cadeaux corrects à nos enfants quand ils avaient leurs anniversaires parce qu'on n'avait pas de moyens. Quand on a renoncé. Parce que il y a eu, je peux le dire, parce que ils sont plus là, des gens méchants de l'assemblée qui sont allés de maison en maison pour dire aux gens ne donnez plus l'offrande à l'église, on va voir comment il va vivre. Il va fuir. Effectivement, nous avons découvert un magasin qu'on appelle Aldi. Ça n'a pas duré un mois ou deux. C'est plusieurs années. Maintenant, écoutez-moi. Alors, le Seigneur retourne maintenant la monnaie, commence à me bénir, ça devient un problème. Est-ce que vous pensez que c'est pas normal? C'est normal. Amen. Je crois que Dieu, dans sa justice, selon sa parole, il ne peut que me bénir. N'est-ce pas? Il sait pas encore, c'est parce que je n'ai pas encore eu 100 fois. Quand j'étais à la Sozacom, je n'ai acheté qu'une maison à Kinshasa. Mais je n'ai qu'une maison à Kinshasa, donc j'attends d'en avoir 100. C'est normal, non? Il faut qu'avant que je meure, en tout cas, je vois mes 100 maisons quelque part. Une à Ouagadougou, j'ai déjà choisi mon quartier où je vais construire ma maison à Ouaga. C'est à Ouaga 2000. Une belle villa. Oui, c'est normal. Je n'ai pas de doute là-dessus. et je n'ai même pas peur. Vous voyez, j'ai compris plus tard quand ça a dépassé les bornes que je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur m'a dit, non, j'ai promis que tu auras 100 fois, mais avec des persécutions. Les critiques font partie de la persécution. C'est normal. Alléluia. Le Seigneur m'a dit un jour de donner ma voiture Mercedes à un prédicateur, un pasteur portugais. Mercedes. Il n'avait que 6 ans. Alors, vous qui roulez en Mercedes, une Mercedes de 6 ans, elle est encore fraîche. Donc là, quand j'ai eu la conviction, je dis, bon, je donne. Parce que le chef a dit. Alors, la Mercedes est partie. Est-ce que c'est pas normal que Dieu me donne une Mercedes neuve? Mais c'est ça la loi. Et d'autres encore. Mais, ce qu'il y a, ce que j'aimerais que nous saisissions, je suis pas là pour me plaindre, parce que j'ai compris ces choses, hein. Je vous explique tout simplement que, normalement, recevoir une Mercedes, c'est pas anormal. C'est même trop insuffisant. Parce que je dois en avoir 100. Mais, la persécution viendra. Les gens vont critiquer, il a fait ça, il a fait ci, c'est normal. Vous comprenez? Donc, chaque fois que vous renoncez, que vous vendez, que vous donnez aux pauvres, Dieu vous donne, mais ce don que vous allez recevoir de Dieu, vous n'allez pas l'avoir les oreilles tranquilles. Les gens vont parler, les gens vont vous injurier, les gens chercheront même à attenter à votre vie. C'est ça la persécution. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que vous êtes prêts à endurer une telle persécution? N'est-ce pas que nous nous fâchons pour même les chants ici? Hein? Aujourd'hui, c'est moi qui devais diriger, on a mis quelqu'un d'autre. Dimanche prochain, je ne viens pas. Si vraiment tu es encore à ce niveau-là, Oublie la bénédiction qui doit venir de Dieu. Hein? 100 fois. La récompense est là. Alors, Pierre est rassuré que ce qu'ils ont quitté, ils vont le recevoir. Mais multiplié par un facteur correct, selon Dieu. Voyez les calculs de Dieu. C'est ce que Kabatier a chanté. Calcul de Dieu. Tu donnes 1, tu reçois 100. Maintenant, on ne donne pas pour recevoir. On donne pour obéir. C'est ça la différence. On donne pour obéir à la parole de Dieu. D'ailleurs, quand tu donnes, tu dois souffrir dans ton cœur. Je disais à 8h30 que pendant notre séjour aux États-Unis, on va à une réunion, on nous demande de donner chacun 1 000 $. Vous savez, les Américains, eux, ils travaillent pas comme nous, hein, ils sont dans d'autres normes. Ils disent que chacun commence, donne 1 000 $, et celui qui demande, il se met à pleurer, je vois des gens qui courent, là, pour aller donner 1 000 $. Alors, moi, je viens réfléchir, Seigneur. J'ai amené une femme et 5 enfants. Et nous mangeons au restaurant, tous les jours. Je donne 1 000 $ et on va vivre comment? Le patron dit, donne 1 000 $. Bon, ça va. Je demande aussi le papier. Mon cœur défendant. Et je signe 1 000 $. Ça part. Vous savez, nous sommes arrivés, on nous loge dans une suite à l'hôtel Hyatt, flambant neuve. étroite et les chaînes de musique, salon, salle à manger, tout confort à l'américaine. Suite hôtel Hyatt. Alors, mes enfants commençaient à dire, est-ce qu'il y a un problème? Ça ne va pas là. C'était trop beau. Je pense qu'on n'a jamais été dans un endroit, dans une chambre, dans des chambres aussi belles. Suite présidentielle. Hyatt. À la fin, je pars pour payer ma facture. Pour les enfants, parce que moi, je suis un délégué, je suis évêque, comme l'ange. Les enfants ne sont pas des évêques. J'arrive là. Madame, hey, Bishop, tout est payé. Et même la voiture que j'avais mise au parking, payant, on me dit tout. J'ai dit, mais j'ai déposé une voiture au parking, c'était 22 $ par jour. Je dis, tout est payé. Dis donc. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, on est sorti heureux de n'avoir pas dépensé les 1 000 $ là. On fait le travail, hein. Personne, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume, mais Marc dit bien à cause de moi et de à cause de la bonne nouvelle. Moi, ça veut dire Jésus, Seigneur, qu'ils le reçoivent. Et puis plus tard, la vie éternelle. C'est le test que notre ami a échoué, le riche. Et c'est pour cette raison, les autres textes parallèles, il dit, quand Jésus l'a regardé, il a aimé. Il avait envie de l'évangéliser encore à mort. Mais il n'y avait pas un autre évangile pour lui. C'était ça l'évangile. C'est vrai qu'il y a des moments où vous avez besoin juste, parce qu'il lui manquait juste une chose. Et c'est ça qui lui manquait. Et il a raté. L'histoire se termine. On ne sait pas s'il s'est converti plus tard. Mais je crains que s'il ne s'est converti, il n'ait raté totalement la vie éternelle. C'est pour cette raison, nous avons besoin que Dieu nous aide. Dans la gestion de ce que Dieu nous donne, à écouter, on ne doit pas donner au hasard. Il faut que le Seigneur nous le demande. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Jésus a dit, oui, c'est moi, marche. Il est sorti, il a marché. Il n'a pas coulé. Maintenant, est-ce que Jésus va descendre et nous parler? Non. Moi, je pense que quand il y a un besoin pour le royaume de Dieu, c'est Dieu qui parle. Vous pensez que quand on nous a demandé chacun 1 000 $ pour évangéliser les non-évangélisés, c'était Jésus qui était descendu. Et puis, c'était en Amérique. Je me suis dit, bon, ce sont les Américains, ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi moi, j'ai besoin d'argent, je veux leur donner. Le Seigneur a dit, non, c'est ici ma parole. Tu donnes. Nous n'allons pas attendre d'autres circonstances, comme le Saint-Esprit le dit dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit à l'Église. Et je pense que pour la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles, nous sommes dans les travaux de construction. Le Saint-Esprit ne va pas vous parler d'autres choses avant qu'on ait terminé ce que nous sommes en train de faire. Alors, on attend. Il y a des gens qui disent, non, je n'ai pas de conviction. Non, tu gardes ta conviction. C'est pas la conviction. C'est parce que tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur. C'est parce que tu ne veux pas obéir à la parole. Dieu ne demande pas notre conviction pour obéir à la parole. Dieu demande une obéissance à la parole. Je suis sûr que le riche là est allé chez lui s'enfermer pour prier et demander à Dieu si c'était sa volonté. Parce que ce qu'il a entendu Jésus lui dire là, c'est pas ça. Écoutez, ce que Jésus va nous dire, c'est pas toujours des choses qui marchent avec nos calculs. Jésus va nous dire des choses qui brouillent, qui perturbent nos calculs, qui nous mettent en problème avec nos projections et nos calculs. Alors si nous disons, Seigneur, tu es mon Seigneur, prends cela. Et alors Jésus va se réjouir de toi. Vous voyez, la richesse, la vraie richesse, c'est cette obéissance qui soumet ce que nous sommes à Dieu. Tout ce que nous avons à Dieu. Je voudrais nous encourager. C'est un combat de tous les jours quand nous devons nous soumettre à ce que Dieu nous demande. Et quand nous donnons une chose, demain il nous demandera peut-être une autre chose. Mais si nous sommes prêts à dire, Seigneur, ce que tu demandes, je te donne. Ça me fait mal. Vous pensez que Isaac, ça n'a pas fait mal à Abraham? Quand Dieu lui a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va me l'offrir au mont Morija. Abraham, il a réfléchi très rapidement, Seigneur, 25 ans de prière pour avoir cet enfant. Des troubles à la maison à cause de cet enfant. Qu'est-ce que je n'ai pas connu comme perturbation à cause de cet enfant? Quelle joie quand il est né! Enfin, ma femme Sarah a un enfant. Mais comme c'est toi qui me le demandes, je vais aller l'offrir. Ça, c'est un cœur soumise à Dieu. La parole déclare, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il dit que Dieu a la capacité de ressusciter même les morts. Alors je vais. Dieu ne va pas demander des choses faciles. Si ce que tu as offert à Dieu, c'est des choses faciles, hein, eh bien, I'm sorry. Je suis désolé. T'as encore rien fait. T'as encore rien fait.
Il y a des gens là, ils se réveillent et disent non, il est au chômage, il n'a rien, il dit, je deviens pasteur, évangéliste, avec des visions, des prophéties, je le regarde.
C'est pas possible. Vraiment. Donc le ministère devient toujours de bon marché comme ça. Ça devient un chapitre dans tes aventures. Hein, Seigneur, on va donner l'offrande. Et oui, on cherche là-bas une pièce de 1 euro. On vient en se balançant et puis on donne. My God! Hey. C'est pas vrai. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu te demande? David dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qu'il me coûte. Rien. Dieu n'est pas en besoin, en manque de quoi que ce soit. Mais si quelqu'un lui obéit, Dieu lui accorde une bénédiction qui dépasse toute intelligence. Est-ce que vous pouvez souscrire à cette bénédiction-là avec nous? C'est ça la vraie bénédiction.